écoutez bien France Culture, il est midi, bonjour à tous. Et bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Caroline Brouet est en route pour Bordeaux, d'où elle présentera demain une émission spéciale de la Grande Table, consacrée notamment aux 120 ans de la librairie Mola et au Forum d'Avignon, qui se tient donc à Bordeaux cette année, c'est comme ça. Dans quelques instants, la première partie de la Grande Table, mais avant cela, vous nous donnez quelques titres du journal de 12h30, Antoine.
Et d'abord, la mort d'Imre Kertész, auteur d'Être sans destin, lauréat du prix Nobel de littérature en 2002. Il était âgé de 86 ans, vous lui rendrez hommage dans un petit instant, Raphaël Bourgois, dans la première partie de la Grande Table. Et nous aussi, nous entendrons Catherine Côte-Côte, qui parlera de ce témoignage exceptionnel sur les camps qu'avait apporté donc Imre Kertész dans son œuvre. Le gouvernement confronté à la nouvelle journée de grève et de manifestation contre la loi travail, les transports publics sont perturbés, plusieurs lycées sont bloqués en France. Il y a des établissements parisiens qui ont été fermés d'ailleurs par leur direction afin de protéger enseignants et jeunes de débordement, suivi avec Armel Balogog tout à l'heure et Lise Verbeck. Le risque d'escalade en Libye avec le chef du gouvernement d'Union nationale qui était pourtant soutenu par l'ONU, qui est arrivé hier à Tripoli, mais les autorités qui ne sont pas reconnues de la capitale l'ont aussitôt sommé de partir. On en parlera avec Nabila Hamel. Et puis au large de la Libye, toujours les drames des migrants avec un bateau qui transportait environ 120 personnes qui a fait naufrage hier. Seuls 32 passagers ont pu être secourus ce matin. Aux États-Unis, Donald Trump continue de monopoliser l'attention des médias, pas toujours d'ailleurs à son avantage. Le favori des primaires républicaines a dû se rétracter après avoir suggéré hier de punir les femmes qui avortent, suivi de cette campagne très spéciale avec Nadine Epstein. Et puis, dans la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Dans la dernière partie, Antoine, nous évoquerons le nouvel ordre électoral. C'est le titre du dernier essai de l'historien et démographe Hervé Lebras, un essai qu'il a publié au Seuil dans la collection La République des idées. Son sous-titre, Tripartisme contre démocratie, ça promet une belle discussion. À tout à l'heure, Antoine.
À tout à l'heure.
Une émission un peu bousculée aujourd'hui. Dans quelques instants, nous évoquerons Palmyre, la cité antique de Syrie qui a été reprise cette semaine par les troupes de Bachar el-Assad avec l'aide de la Russie et du Hezbollah aux mains donc de Daesh. Mais nous allons en faire avec notre invité une évocation littéraire pour ce lieu meurtri. Et on sera avec l'académicien Dominique Fernandez qui est déjà en studio. Mais avant, vous en parliez Antoine dans les titres. Hommage à l'écrivain hongrois Imre Kertész, le prix Nobel de littérature en 2002 dont on a appris la disparition ce matin.
Vous gondolkodom, mit töprengek, mennyit töprengek arról, hogy
réfléchis, je me casse la tête souvent. Pour savoir comment faire face à mon devoir humain. Est-ce que j'ai répondu à l'appel? Est-ce que je n'aurais pas dû engendrer des enfants? Est-ce que je n'aurais pas dû faire plus pour ma famille? Je n'étais pas bien. Mais quand j'entends votre lecture, je suis tout émue. J'ai bien fait, j'ai fait le bon choix. Il fallait plutôt écrire.
Ez az a része az életnek, amely a valóságban szemben egy másik valóság.
Ez c'était ma réponse à la réalité, à une certaine réalité. Moi j'ai écrit une autre réalité, la vraie réalité.
Inkább teszi közszemlére önmagát, mert ez egy átadható.
C'est de cette façon-là que je voulais me montrer moi-même.
Sorsot.
Et c'est comme ça que je voulais transmettre mon destin en produisant des livres.
La voix d'Imre Kertész, c'était dans Hors-Champ avec Laure Adler, une archivina qui date de 2010. Imre Kertész qui réagissait à la lecture que Laure Adler venait de lui faire de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, son livre publié en 1995 aux éditions Actes Sud, les éditions Actes Sud qui ont publié presque l'intégralité de l'œuvre d'Imre Kertész. On mettra évidemment Être sans destin ou encore Liquidation et plus récemment le dernier, l'ultime Auberge. Pour évoquer la figure de ce grand écrivain, nous sommes au téléphone avec Sabine Audrey, bonjour Sabine Audrey.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes critique littéraire au journal La Croix, journaliste donc, et vous avez rencontré à plusieurs reprises Imre Kertész, cet auteur qui a marqué évidemment la littérature mondiale, la littérature aussi dans ce genre un peu particulier qui est la littérature sur la Shoah. Quel souvenir d'abord vous en gardez? Est-ce que vous pourriez nous resituer cet écrivain dans cette histoire de la littérature?
Oui, le souvenir personnel, bah, il compte peu, mais l'intensité, je pense que c'est une rencontre la plus marquante que j'ai pu faire dans ce travail autour de la littérature, dans les rencontres qu'on peut faire avec les écrivains dans notre quotidien. C'est quelqu'un d'une intensité rare, dans son regard, dans sa présence, avec beaucoup d'humour et beaucoup de jovialité. Et je crois que c'est des éléments qui se retrouvent dans son écriture et dans son travail, paradoxalement, puisque effectivement, vous l'avez dit, vous allez peut-être y revenir avec Catherine Cocchiot, si j'ai bien compris.
Oui, qui sera présente dans le journal d'Antoine Mercier à 12h30.
Qui peut-être pourra développer tout ce qui concerne effectivement son écriture sur l'expérience concentrationnaire et l'expérience de l'entreprise de déshumanisation qu'il a pu connaître et qu'il a si bien exprimé dans son premier roman « Être sans destin ». Il a cette particularité, me semble-t-il, par rapport à d'autres écrivains ayant écrit sur la Shoah, Primo Levi, Jean Améry, Paul Celan, etc., qui d'ailleurs, eux, se sont suicidés. Lui, la question du suicide et du non-suicide et de la survie sont au cœur de son œuvre. Lui, il a amené, je crois, l'idée que seule la représentation esthétique de la Shoah était possible, contre Adorno, qui lui, on le sait, il y a cette phrase fameuse qui dit que la fiction n'est pas possible après Auschwitz. Et surtout, il a étudié, me semble-t-il, l'Holocauste comme culture, c'est le titre d'un recueil de son œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis Auschwitz et surtout qu'est-ce que Auschwitz a engendré. Il a un intérêt toute sa vie comme citoyen et comme écrivain pour l'Europe. L'Europe est pour lui, c'était pour lui vraiment, il avait une conviction européenne, il se définissait comme européen avant tout. Il avait d'ailleurs une relation très, très particulière, très ambiguë avec son pays, la Hongrie.
Et oui, il ne goûtait pas beaucoup les évolutions politiques récentes de la Hongrie. Lui-même n'était pas très apprécié. Quand il a reçu le prix Nobel en 2002, on lui reprochait de l'avoir reçu pour une œuvre qui finalement ne célèbre pas la culture hongroise, mais parle évidemment, comme vous venez de le dire, de la Shoah. Vous avez évoqué son style, c'était un phrasé très personnel, Imre Kertész, une langue qu'il définissait comme atonale. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu, donner à entendre ou en tout cas à comprendre ce style d'Imre Kertész, Samine Audrey?
C'est vrai que c'est difficile comme ça de le résumer, et puis il faut distinguer peut-être son œuvre de fiction de son œuvre qui finalement est à moitié composée de romans ou de textes très particuliers, très musicaux, comme le Kaddish dont vous venez de parler avec l'extrait de l'émission de Laura Adler, et la partie des journaux qui compte pour beaucoup de journaux, de textes hybrides entre le roman et le journal, comme l'était le dernier livre paru chez Actes Sud l'année dernière, L'Ultime Auberge, qui apparaît un peu comme un testament. Et peut-être pour les auditeurs qui pourraient ne pas connaître déjà l'œuvre d'Imre Kertész, je leur conseillais de commencer par une lecture chronologique par ordre de publication, parce que on peut constater que son écriture et son style et même son propos se sont très fortement radicalisés vers beaucoup de noirceur sur la fin de sa vie, de ses derniers livres, à mon sens. Et L'Ultime Auberge est vraiment un livre qu'on peut qualifier d'être abilaire. Il a quelque chose de vraiment très noir et de très désabusé, même s'il s'autorise tout de même des incursions vers les souvenirs d'enfance, vers la poésie de description de paysages qui sont toujours très très beaux quand Kertész s'intéresse, évoque la littérature, les paysages, la musique, ses expériences sensorielles liées à la musique et à l'observation de la nature, même si ça surgit comme ça brutalement dans une réflexion très profonde sur la noirceur de l'humanité, au fond. C'est vrai que ces juxtapositions font l'intensité de son œuvre aussi.
Très bien. Mais écoutez, il faut lire en effet Être sans destin, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et ensuite tout le reste de l'œuvre d'Imre Kertész. Merci beaucoup Sabine Audrey d'avoir été avec nous au téléphone. Je signale tout de même que évidemment France Culture va rendre hommage dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, à Imre Kertész, d'abord par la rediffusion de ce hors-champ de Laura Adler ce soir à 22h15. Vous pourrez entendre dans la longueur cette interview dont on a diffusé qu'un court extrait. Il faut aller aussi sur sur le site de France Culture où un dossier spécial est consacré à Imre Kertész. Et évidemment, d'autres émissions reviendront sur la disparition de ce très grand écrivain.
Palmyre, le royaume de la reine Zénobie, de la reine du 3e siècle après Jésus-Christ qui osa braver l'empereur Aurélien et fut emmenée captive en Italie, où, chargée de chaînes, elle dut suivre le char triomphal de son vainqueur. Jamais je n'ai vu de plus bel ensemble ni de plus vaste conception de ruines romaines que celle de Palmyre. Servine s'élève à 405 mètres d'altitude dans un site grandiose, ceinturé de palmiers. Temples et colonnades se détachent sur le fond d'une petite crête montagneuse dont les pentes ravinées sont parsemées de tours funéraires et dont le principal sommet est couronné d'un vieux fort arabe.
La voix de Louise Weiss, en 1952, elle nous décrit la ville de Palmyre qu'elle a visitée et dont elle parle des colonnades verticales. C'est aussi ce qui a marqué notre invité, Dominique Fernandez. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Philippe Ray Adieu Palmyre. Vous êtes écrivain, évidemment, académicien également. Et vous consacrez, vous faites une ode littéraire à cette ville de Palmyre dont on apprenait l'été dernier la destruction des ruines en partie, des temples, des deux grands temples qui faisaient notamment sa beauté, de l'Arc de Triomphe et également. Et là, voilà, récemment, cette semaine, l'armée de Bachar el-Assad a repris possession de la ville et s'est posé la question de la, voilà, de ce qui avait véritablement été détruit, de la reconstruction éventuelle. On en reparlera certainement. Vous commencez finalement votre ouvrage, Dominique Fernandez, ce court texte que vous sacrez à Palmyre, par la façon dont on arrive à Palmyre, par le désert. Et ce contraste entre l'étendue du désert et la verticalité de ce lieu. C'est véritablement une image d'abord que vous avez de Palmyre.
C'est-à-dire, pour moi, c'est le plus beau site latin et grec. Il y a que la Libye que je connais pas, mais en fait, de tout ce que j'ai vu dans tout pourtour de la Méditerranée, c'est le plus beau parce que c'était à la fois la beauté des ruines elles-mêmes et surtout la beauté du paysage dans lequel elles étaient englobées. C'était un site très romantique à la différence de beaucoup de sites qui sont très plats. Là, c'est montagneux, c'est dans une vallée très, très large où il y avait ces tours funéraires qui ont été détruites, hélas. Et c'était sec d'extraordinaire. Alors on faisait 300 km dans le désert, assez plat, de tous les côtés, parce que c'est au milieu du désert, à égale distance des grandes villes d'Alep, de Damas et de Deir el-Zor. Et on arrivait là, tout d'un coup, il y avait ce souvenir du passé, c'était saisissant.
Et un site qui est sans clôture.
Sans clôture, c'est le seul aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billet d'entrée, et on pouvait se promener la nuit au clair de lune, et ça c'était absolument magique.
Vous racontez aussi votre arrivée dans cet hôtel, qui est un hôtel un peu mythique, qui est l'hôtel de la reine Zénobie.
Oui, l'hôtel Zénobie qui était donc la reine qui s'est opposée aux Romains au 3e siècle. Et il y avait une aventurière française qui avait construit un hôtel particulier au début du 19e, dans le site. C'était encore permis. Il n'y a pas de droit à l'époque où alors elle avait versé des pots de vin, je ne sais pas. Et ce petit hôtel particulier, qui n'était pas très beau d'ailleurs, mais était devenu un hôtel qui était devenu vieux, un peu jeté en vieil hôtel britannique, vous savez, avec de vieux Anglais échoués devant des weird whisky.
Il y a un aspect très littéraire encore. On a l'impression d'être dans un roman de Somerset Maugham.
Oui, voilà, ou d'Agatha Christie.
Ce côté très suranné.
Qui a séjourné de l'air parce qu'elle a écrit des romans. Des romans policiers qui se passent en Mésopotamie, c'est-à-dire autour. Et c'était absolument fascinant parce que on prenait son café le matin sur la terrasse devant l'hôtel, était devant le temple de Belchamine, le petit temple très gracieux qui a été dynamité. Et on faisait quelques pas, on était dans le champ, dans cet immense champ de ruines.
Et c'est ce qui en fait une ville littéraire, cet aspect, voilà, entre la ruine. On aime bien écrire sur les ruines aussi,
oui,
Dominique Fernandez.
Mais curieusement, les grands écrivains français, par exemple, qui ont visité la Syrie, ne passaient pas par Palmyre. C'est-à-dire ni Chateaubriand, ni Nerval, ni Lamartine, qui sont allés à Alep, à Damas, ne sont pas passés par Palmyre.
Donc c'est pourquoi on se l'explique ou...
Il y a très peu de témoignages littéraires, en fait.
À part le vôtre, évidemment. Et puis plus récemment, Mathias Hénard, dans son roman Boussole. Alors évidemment, Palmyre, c'est un objet mythologique, mythique de fantasme. C'est aussi un objet d'historien. Il y a un grand historien qui lui a consacré un livre récemment. C'est Paul Veyne.
Quand j'étais petit, j'ai vu sur la devanture de la librairie Gibert un petit livre paru il y a 70 ans sur Palmyre. Je devais avoir 15 ans et j'avais été fasciné sur cette ville étrange, civilisée, installée en plein désert. C'est la civilisation s'installant dans le néant. Et puis, rien que le nom prouvait que c'était multiculturel. C'était pas des mots latins en homme ou en rosa. C'était autre chose, une autre chose qui pourtant n'était pas totalement différente. Bref, c'était multiculturaliste. Mmh. Alors c'était plus intéressant que les choses ennuyeuses qui sont toutes les mêmes. Bon, j'habitais Vaison-la-Romaine, Orange. Ouais. Palmyre, ça avait plus de saveur parce que c'était plus mélangé.
C'était plus mélangé. La voix de Paul Veyne au micro de Christophe Onodibio sur France Culture. C'était il y a quelques semaines, quelques mois. Dominique Fernandez, vous aussi, vous relevez cette dimension multiculturaliste.
Oui.
Voilà, Palmyre, c'est vraiment la rencontre.
Je suis pas historien, hein, comme Paul Veyne, que j'admire beaucoup.
Mais vous percevez cette rencontre.
Je suis un voyageur quelconque qui a, je suis allé 4 fois à Palmyre, j'ai séjourné même. Ce qui me fascinait, moi, c'était, même sans rien savoir de l'histoire, même de Zénobie.
Vous le revendiquez.
Je m'en suis renseigné après. Mais la première fois, c'est comme que vous arrivez dans un paysage quelconque. C'est cette émotion que j'essayais de faire passer dans ce petit livre. C'est un lieu qui parlait à tout le monde, même sans être érudit, ni même sans rien connaître de l'histoire. C'était en soi un lieu magique. Et ça, c'est le seul, parce que les autres, vous savez, vous avez des sites archéologiques où il reste rien que des choses par terre et qui sont ennuyeux parce que vous y comprenez rien, vous savez pas. Tandis que là, ces colonnes, il y avait 1,5 km de colonnades. J'espère qu'elles sont encore là, ou certaines sont encore là, mais je crois qu'elles ont été aussi démolies. Et c'était 1,5 km de colonnades dans le désert, c'est une chose extraordinaire.
On ne sait pas encore également tout à fait l'état des destructions qui ont lieu à Palmyre. Mahamoun Abdul Karim, qui est le responsable des antiquités du musée de Syrie, oui. Il est en train de dire qu'il va falloir faire un état des lieux. Il faut attendre, parce qu'évidemment, le lieu a été miné.
Il pense que dans 5 ans, pour avoir construire, mais qu'est-ce que ça veut dire reconstruire des ruines? Ça me paraît un peu absurde, parce que ça, ce qui était beau, c'était la patine du temps. Alors, si on fait du neuf, ça sera plus du tout la même chose. Oui.
Vous avez peur que finalement reconstruire Palmyre, ce soit dénaturer aussi
Oui, parce qu'on peut reconstruire un monument entier démoli, ça c'est fait, mais on ne peut pas reconstruire des ruines, parce que c'était déjà des ruines. Aucun de ces bâtiments n'était intact, évidemment, les temples démolis. Donc il faut reconstruire ce sera des ruines de ruines.
Alors c'est justement la question que j'ai posée à Annie Sartre, qui est une historienne et qui, avec son mari Maurice Sartre, est l'une des meilleures spécialistes de Palmyre. Elle est aussi experte auprès de l'UNESCO, en ce qui concerne les vestiges syriens. Et voilà ce qu'elle m'a répondu quand on a parlé de la reconstruction.
Penser que l'on va reconstruire le site me semble extrêmement prématuré à l'heure actuelle. D'abord, il faudra attendre que les combats cessent, que les armées évacuent le site historique. Il faudra faire des expertises et honnêtement, je ne vois pas comment en 5 ans on aurait le temps de faire expertise et reconstruction. Ça me paraît totalement surréaliste. D'autre part, est-il nécessaire de reconstruire? Moi, je veux bien que l'on restaure et notamment le Grand Arc qui est à l'entrée de Palmyre, qui a été abattu mais pas pulvérisé, semble avoir suffisamment conservé de blocs intacts pour qu'on envisage une reconstruction, ce qu'on appelle une anastylose en terme choisi. Donc on remonte le Grand Arc, je ne vois pas d'inconvénient. En revanche, que l'on reconstruise le temple de Bel, ça me paraît de la folie. D'abord parce qu'il est réduit à l'état de poussière. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un temple neuf? On veut absolument que Palmyre, ça devienne Disneyland, ça devienne Palmyre Las Vegas. Moi, franchement, je n'y tiens pas. Franchement, je préfère que le temple reste tel quel. D'ailleurs, en même temps, c'est un vestige d'histoire. C'est aussi l'histoire de Palmyre, la destruction par Daesh. Et au fond, pourquoi effacerait-on complètement du paysage ce qui fait partie de l'histoire du site, en fait? Bon, je sais bien que c'est douloureux de dire des choses comme ça. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit raisonnable de se lancer dans une reconstruction pareille, d'autant plus qu'il y aura bien d'autres choses à reconstruire en Syrie quand la guerre sera finie, ne serait-ce que des villes pour héberger tous les gens qui ont été chassés de chez eux et qui vont peut-être revenir, et pour donc toute cette population qui est en errance et réfugiée à droite à gauche en Syrie même ou à l'extérieur. Donc encore une fois, là, moi je trouve qu'il ne faut pas s'emballer. D'abord, il faut se donner le temps de la réflexion. Il ne faudra pas, si on reconstruit, il ne faudra pas le faire n'importe comment. Il faudra respecter le bâti, il faudra respecter l'architecture d'origine. Et tout ça, ça prendra du temps. Et je crois qu'il faut raison garder dans cette affaire.
Dominique Fernandez-Annie Sartre dit « La destruction de Palmyre par Daesh fait maintenant partie de son histoire. » Vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, bien sûr. Bah oui, c'est évident, mais...
Vous n'éludez pas la question politique dans votre texte, je veux dire la question de Daesh, et vous parlez, évoquer ces destructions, de vandalisme, inscrivant ainsi ce qu'a fait l'État, le groupe État islamique dans une histoire
oui,
longue.
Oui, je fais un chapitre, j'y tiens beaucoup à ce chapitre, parce que je montre que toute idéologie qui prend le pouvoir tend à faire table rase du passé. Vous savez que les premiers chrétiens ont démoli à coups de marteau les statues grecques, quand même. Les jacobins, pendant la Révolution française, ont démoli bien plus que Palmyre, parce que l'abbaye de Cluny, qui était la plus grande église de la chrétienté, plus grande que Saint-Pierre, que le premier Saint-Pierre de Rome, il reste presque rien. Les Huguenots ont lacéré les portraits de la Vierge et des saints. Enfin, c'est une constante, une passion de l'humanité, c'est que quand une religion, une idéologie prend le pouvoir, elle commence par absolument pulvériser tout ce qu'il y avait eu avant elle.
Oui, vous refusez de faire de cet iconoclasme le propre de l'intégrisme musulman.
Il n'y a pas de culture. Ils ont fait comme les autres, je veux dire. Mais rappelez-vous quand même les premiers chrétiens, quand même, et les jacobins, la Révolution française, vous savez, toutes les statues de Notre-Dame ont été détruites. On voulait raser tous les clochers au nom du principe de l'égalité. Heureusement, beaucoup ont échappé à cette idée absurde, mais c'est comme ça, quand vous relisez les textes de l'époque, pendant la Révolution, il fallait détruire toutes les églises, tout ce qui était religieux, tout ce qui rappelait la superstition, comme il disait. Voilà, c'est...
Dès le début du texte, Dominique Fernandez, vous défendez par anticipation d'une critique qu'on pourrait vous faire en disant vous vous souciez des vieilles pierres, mais pas des gens. Et vous citez notamment
Michelet,
voilà, qui dit...
a un magnifique passage dans son Histoire de France où il dit que les pierres sont vivantes, c'est le sang du peuple aussi, c'est aussi vivant que les... Bien sûr, je suis d'accord avec Madame Sartre qu'il faudra d'abord reconstruire les maisons à Alep, qui est complètement détruite, qui était une ville admirable. Et les autres, c'est comme plus important, les hommes que les pierres. Mais quand même, les pierres ne sont pas seulement des pierres. Ce sont aussi des témoignages vivants, palpitants de l'histoire.
Alors, on a évoqué au début de cette émission la reine Zénobie, celle qu'on appelle la reine Zénobie, car elle n'était pas vraiment reine.
Ah, si.
Écoutez, d'après Annie Sartre, elle ne s'était pas... elle n'était pas vraiment reine, mais elle a essayé d'aller contre le pouvoir de Rome, ou en tout cas d'introniser son fils empereur romain, ce qui lui donne tout autant de panache. Et vous en faites une héroïne politique.
Ah, mais c'est une femme extraordinaire. D'abord, c'est une rare femme... politique, je veux dire, parce que dans les grandes femmes de l'Antiquité, comme Cléopâtre ou Didon, sont des amoureuses uniquement. Elle était amoureuse peut-être de quelqu'un, mais elle était surtout une femme de pouvoir. Elle allait à cheval, elle avait un étendard, elle partageait, elle buvait du vin avec les soldats, tout en étant sobre par tempérament. C'est une femme extraordinaire, et donc qui s'est dressée contre Aurélien, parce que c'était une colonie romaine, Palmyre, comme tout le bassin de la Méditerranée, elle s'est dressée, et Aurélien a envoyé ses légions, il y a eu des batailles, des morts, et elle a été capturée, emmenée en Italie, et on lui a donné une villa à Tivoli. C'est amusant, parce que Tivoli, c'est pour nous, c'est une villa, vous savez, avec de l'eau, des arbres magnifiques, et elle est morte là, on ne sait pas très bien la date de sa mort, elle a disparu à ce moment-là. Mais enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement passionnant, mais on sait très peu de choses sur elle. Il y a juste un historien romain, l'histoire Auguste, qui raconte, il n'y a que ça qu'on sait, et on ne sait même pas si c'est vrai ce qu'il raconte, parce que c'était peut-être enjolivé déjà dès l'origine.
Vous racontez aussi, Dominique Fernandez, votre première visite à Palmyre, c'est en 1995, et vous venez dans ces ruines, dans ce lieu, juste après avoir visité Saint-Pétersbourg. Et là, vous faites un parallèle qui paraît assez audacieux, je dois dire, entre la ville de Saint-Pétersbourg et celle de Palmyre.
Je vous dis une fois de plus, parce que ce qui m'intéresse dans Palmyre, c'est pas, je suis pas historien. Au fond, ça m'est égal l'histoire de Palmyre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vu. Or, la colonnade rappelle tout à fait le principe d'architecture utopique, idéale, que j'avais trouvé à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg aussi, c'est une ville idéale, vous savez. Pierre Ier avait fait un plan régulateur avec des avenues droites.
Oui, la fameuse perspective Nevski.
Tout le même style de colonne. Et là, vous avez aussi la même unité, la même homogénéité architecturale qui relève de l'utopie. C'est une ville presque abstraite. Ce kilomètre et demi de colonnes, voilà, c'est, pour moi, ça fait partie de la même catégorie des villes idéales, des villes abstraites, des villes utopiques.
Et ça crée une perspective, des proportions voilà. En plein désert qui sont propres, notamment qui se prêtent très bien à la photo. On n'a pas cité encore Ferrante Ferranti, avec qui vous avez collaboré.
C'est ça qui fait le prix du livre, à mon avis, c'est les photos. Parce que lui, il est allé 7 fois encore. Moi, je suis allé 4 fois à Palmyre, lui 7 fois. Il a des milliers de photos, là, il a fait un tout petit choix. Et nous sommes allés entre 95 et avant la guerre, 2010, là, à peu près. C'est donc des photos récentes, enfin les plus récentes. Et c'est un témoignage, ça, unique, parce que d'abord, c'est un très grand photographe. Et puis, vous avez vraiment, ça restitue ce que c'était. Moins l'espace, évidemment, parce que la photo ne peut pas rendre la sensation d'espace infini. C'est un très, très grand site. Mais sinon, vous avez tout là. Vous avez la poésie, ça suggère absolument la poésie de cet endroit.
Pourtant, est-ce que la photo peut totalement restituer l'émotion qui est celle qui vous étreint quand vous arrivez à Palmyre ?
Je veux dire, entre l'écrivain et le photographe, on peut s'arranger pour que...
Peut-être la combinaison des deux, oui.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est quand même très... C'est un très beau témoignage visuel.
La ruine, c'est véritablement dans l'histoire de la littérature un motif littéraire, vous le rappelez aussi.
Oui, parce que Volney, qui a le premier parlé de Palmyre, vous savez, il a fait un livre célèbre, Les ruines, à la fin du XVIIIe. Il a fait une tirade lyrique sur Palmyre, or, il n'y était jamais allé. C'est uniquement par ouï-dire. Les gens qui parlaient de Palmyre n'y étaient pas allés. Très peu de gens y étaient allés, à part quelques voyageurs qui ont découvert, des Anglais puis des Français, au XVIIIe. Mais sinon, c'était très difficile d'accès. Même aujourd'hui, c'est quand même difficile. Il faut faire 200 km dans le désert, sur des routes aujourd'hui encore précaires. Alors, imaginez autrefois. Donc, c'était un mythe. Et c'est ça le côté utopique, comme Saint-Pétersbourg. Dès l'origine, il y avait une réalité physique, mais il y avait aussi un mythe de Palmyre qui était plus important même que la réalité.
On sent, Dominique Fernandez, qu'il y avait aussi la volonté, en tout cas ça transparaît dans votre texte, Palmyre était peut-être l'un des derniers véritables voyages où on voit le temps passer, où il faut prendre son temps pour y arriver,
ah oui.
Qu'on puisse faire au 21e siècle, évidemment avant
oui,
le conflit.
Parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'aéroport, on partait soit de Damas, soit d'Alep, soit d'Deir el-Zor, et il y avait 200 km dans le désert, dans des conditions... ou des autocars, ou si on avait une voiture, enfin des routes moyennes. Et donc, il y avait un parcours initiatique avant d'arriver là. Et tout d'un coup, on découvrait le site, puis l'oasis, dont je ne parle pas, parce que l'oasis est toujours là, j'imagine, mais il y avait un magnifique oasis de palmeraie tout à fait belle. Et puis, il y avait le petit village qui a été aussi détruit, je crois, moderne, qui n'avait pas d'intérêt, mais enfin, c'était quand même... C'est là où habitaient les gens. Et c'était... Ça surgissait du... Alors je fais une autre comparaison qui va vous choquer, mais c'est comme à Las Vegas, qui n'a rien à voir, mais là aussi vous faites 200 km dans le désert américain, et tout d'un coup vous voyez cette ville complètement ubuesque qui surgit du désert. Il y avait ce même effet de surprise. Et ça c'est le propre du désert, c'est que il n'y a rien, vous avancez dans les dunes, et tout d'un coup vous trouvez quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, on se quitte, Dominique Fernandez, sur l'ère de Zénobie, à la fin de Aureliano in Palmira de Rossini, vous citez aussi dans cet ouvrage « Adieu Palmyre » avec les photos de Ferrante Ferranti. C'est à lire aux éditions Philippe Rey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour évoquer cette ville dont on a appris donc la reprise cette semaine et dont il va falloir faire le bilan des destructions et peut-être voir ce qui peut être reconstruit. Merci beaucoup Dominique Fernandez. On peut réécouter sur Palmyre la série consacrée par Toufik Hakem dans Un autre jour est possible, dont nous allons mettre le lien sur la page de la Grande Table. On l'entend dans la longueur Annie Sartre évoquer cette grande cité antique. Et je rappelle aussi, puisqu'on en parlait au début de l'émission, qu'un hommage à Imre Kertész va se poursuivre sur la chaîne. Et dès maintenant, puisque le journal d'Antoine Mercier qui vient de rentrer dans le studio, il reviendra.